Très bien, merci. Donc, je tiens à remercier le sénateur M. Bonnecarre qui vient d'arriver. Il m'avait fait part effectivement de son arrivée un peu tardive due à des événements extérieurs. Mais merci de nous avoir rejoints. Et je vais demander à M. le préfet bien, de conclure ces débats. Étant entendu, pour rebondir simplement, je vais être très court, rebondir sur ce que vient de dire Claire. Nous aussi, conscients, quand je dis nous, Association des maires et élus du Tarn, conscients de ces problèmes de ruralité, nous avons décidé de créer une commission ruralité. Et j'ai contacté certains d'entre vous, néanmoins on enverra un courrier pour savoir si d'autres souhaitent s'associer à cela. On ne va pas faire une commission de 20 ou 30 personnes. J'ai déjà dans la salle deux candidats. Ce serait M. Balaran, maire de Sainte-Croix, qui présiderait cette commission. Je regarde mon ami Alain Trouche qui s'est porté également volontaire pour participer à cela. Mon ami Christian Mas, que j'ai vu quelque part. Voilà, il y a aussi, donc j'ai déjà deux personnes qui sont manifestées. On vous enverra un courrier, mais je pense qu'effectivement, vu l'actualité, il est bon que il faut créer au sein de notre association cette commission qui ne traitera que des problèmes de ruralité. Donc un courrier vous sera envoyé très rapidement, mais sachez comment mettre ça en place dès la rentrée. Voilà, monsieur le préfet.
Bien, messieurs les sénateurs, madame la vice-présidente nous a quittés, mais voilà. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président de l'Assemblée départementale des maires, monsieur le maire d'Aussillon, merci de votre accueil. Mesdames et messieurs, bon, écoutez, voilà, tout le débat est intervenu, chacun a dit ce qu'il avait à dire. Je voulais simplement rappeler ce que nous disait Tocqueville, puisque c'était dans la commune que réside la force des peuples libres. Je voulais simplement rappeler qu'Alexis de Tocqueville, qui a disparu depuis quelque temps, n'avait pas rappelé quelle était la bonne taille de la commune. Donc c'était une interrogation qui est devant nous, je crois, et que vous avez évoqué à l'instant. Voilà, c'est un élément sur lequel je voulais revenir parce que beaucoup de choses ont été dites sur les questions de législation. Le préfet, il n'est pas là pour fabriquer la loi, il est là pour l'appliquer. Bon, je me rappelle, le vice-président du Conseil d'État évoquait le fait que lorsque la loi bavarde, le droit se complexifie, enfin se complique et voire s'efface un peu de temps à autre. Voilà, c'est un élément, c'est une donnée, c'est une constante. Cela a été rappelé, une forme d'inflation de la norme. C'est un élément que nous regrettons tous, à la fois ceux qui doivent peut-être l'appliquer tous les jours, et puis ceux qui, de temps en temps, estiment devoir la subir. Alors, je voulais vous dire d'abord que j'étais accompagné de l'ensemble des chefs de service de l'État dans le département, qui sont ici. C'est pour vous montrer la considération que nous avons pour l'ensemble des maires, bien entendu, et leur dire notre disponibilité à échanger avec vous, puisque, si vous ne le savez pas encore, je vous le confirme, voilà, c'est ma méthode. Je souhaite que l'on dialogue le plus possible ensemble. Les décisions, eh bien, le préfet a un certain nombre de décisions à prendre. Il, bien évidemment, prendra toutes ses responsabilités, mais toutes ses responsabilités, elles seront, en tout cas, je m'y efforcerai, éclairées par un débat préalable, un dialogue. Et je souhaite que nous poursuivions sur cette voie et donc vous dire que et les sous-préfets qui sont ici et moi-même et l'ensemble des chefs de service voilà, sont, je le redis, à votre disposition pour dialoguer. Le deuxième élément que je voulais dire, c'est que dans le cadre de l'application des lois, bien évidemment, nous avons plusieurs lois ont été rappelées, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, un certain nombre de textes sont aujourd'hui en application et qui ont quand même, je trouve, très singulièrement changé la donne des équilibres institutionnels de notre pays. Monsieur le Président du Conseil départemental l'a évoqué tout à l'heure, mais la suppression de la clause de compétence générale pour les départements, mais aussi pour les régions, on oublie un peu de le dire, mais aussi pour les régions, fait que maintenant ces collectivités sont gouvernées par un principe de spécialité qui fait qu'elles ne peuvent intervenir que dans le champ délimité par le législateur s'agissant de leurs propres compétences. C'est quelque chose de nouveau, ça n'existait pas précédemment, ça obligatoirement va contribuer, certainement, ici ou là, ça dépend de ce que l'on faisait dans les départements et dans les régions, à limiter les interventions des uns et des autres. Certains s'en sont réjouis, je parle même de présidents de conseils départementaux qui ont dit écoutez, très bien, donc je me retire, puisqu'on sait aussi la pression qu'il y a sur les finances départementales. Certains s'en désolent en disant oui, mais finalement, nous avions un modèle qui pouvait tout à fait fonctionner. Le modèle qui pouvait fonctionner par exemple dans les milieux ruraux. On pourrait imaginer effectivement un couple département-commune rurale qui pourrait s'auto-consolider, appuyer, développer. Eh bien, ce n'est pas ce qui a été choisi. Et donc, ce qui effectivement a été choisi, mais là aussi, j'allais y revenir par rapport à votre intervention, monsieur le Président, ce qui a été choisi finalement, c'est l'intercommunalité, on le sait, mais c'est l'intercommunalité, ce n'est pas nouveau. Enfin, je voulais simplement rappeler que depuis de très, 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 très nombreuses années, on a commencé par le CIVU quelque part et on doit en être à la métropole maintenant, la notion d'intercommunalité est quelque chose qui est extrêmement familier à notre paysage politique, toute tendance politique confondue. Je veux dire, ce paysage de l'intercommunalité, ça fait 30, 40 ans qu'il est construit, progressivement, toujours dans le même sens. Soit en accroissement des territoires, soit en accroissement de compétences. Bon, et moi, il ne faut pas me dire, si vous voulez, enfin, il ne faut pas me dire, je le dis plaisamment, mais on ne peut pas dire, si vous voulez, que c'est la faute à Rousseau et que c'est la faute à Voltaire, quoi. Enfin, c'est-à-dire, nous sommes tous responsables. Moi, vous, nous tous, et le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire la loi que l'on doit appliquer, c'est bien voilà, l'expression de la volonté générale. Alors, de temps en temps, ce sénateur nous a dit que la clarté n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Bon, certes, mais enfin, voilà, l'intercommunalité, ce n'est pas une loi, c'est une succession de lois sur une période de temps extrêmement importante, et qui conduit à dire, très simplement, que finalement, on aime bien la solidarité, on veut promouvoir cette solidarité sur un territoire, et aussi ce que l'on fait quand on fait de l'intercommunalité, je le rappelle quand même, c'est qu'on fait de l'égalité et de l'équité. C'est-à-dire qu'on gomme ce qui était évoqué tout à l'heure, les différenciations d'une petite commune à une autre, on parlait des ressources, on parlait des possibilités d'intervention, et ça a aussi vocation à ça, c'est-à-dire à donner, à distribuer, à mettre à disposition du service qui, si vous voulez, lui-même, sera le même sur l'ensemble du périmètre de l'intercommunalité, qui, par construction, forcément, est plus grand que le périmètre communal. Alors après, c'est vrai, nous avons des différenciations très importantes qui ont été, d'ailleurs, je crois, confiées aux élus, c'est-à-dire que ça a été le choix des élus que de définir des périmètres. On évoquait tout à l'heure des notions de seuil. Oui, il y a des notions de seuil. Bon, en milieu rural, on sait que le seuil minimum, c'est 5000 habitants. Mais voilà, dans l'autre sens, si vous voulez, de l'autre côté, on voit bien que quand on regarde notre territoire, le Tarn, vous-même, les élus, avez opéré des choix très différents. Mais je ne fais que le constater. Bon, donc il y a bien là l'exercice d'une liberté communale, j'y reviens. Et donc, je voudrais simplement dire cela parce que, voilà, quand on dit il faut faire ci, il faut faire ça, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, il y a aussi des choix qui sont opérés et qui sont en cours de gestation. Alors, ils sont toujours en cours, d'ailleurs, ces choix, puisque les transferts de compétences qui interviennent vont continuer à intervenir jusqu'en 2020. Enfin, on connaît bien ces éléments. Et de ce point de vue, je voulais vous proposer de venir vous voir à partir de septembre. Je parle au niveau des intercommunalités et des communes membres de ces intercommunalités pour dialoguer avec vous, avec les collègues sous-préfets et quelques chefs de service. On verra avec vous quelles sont les thématiques que vous souhaitez retenir pour simplement faire une sorte avec vous de manière très pragmatique d'état des lieux de ce qui se passe sur vos territoires, finalement, de ce qui marche plutôt pas mal, de ce qui mériterait d'être corrigé, et puis de voir l'appui que l'on pourra, le cas échéant, vous donner si jamais, finalement, vous le sollicitiez et vous ne l'aviez pas jusque-là fait. Donc je voulais vous dire ça, parce que je crois que c'est le rôle de l'État local que d'être à vos côtés, et de vous aider, comme le rappelait le président Carcenac, en utilisant ce terme de facilitateur, d'être à vos côtés pour venir effectivement bien voir quelles sont vos difficultés et vous aider dans la mesure de nos possibilités, dans la limite de ce que la loi nous offrira. Car encore une fois, il y a toujours bien évidemment une possibilité de regarder un texte de loi avec plusieurs méthodes, mais enfin, au bout d'un moment, si vous voulez, la loi, c'est la loi, et nous l'appliquerons, puisque nous sommes bien évidemment là pour ça. Voilà, je voulais vous donner ces éléments. J'évoquais tout à l'heure les grands équilibres avec la loi NOTRe, le rôle désormais un peu plus restreint du département et de la région, mais vous dire également que, bien évidemment, il faut que nous jouions collectif. C'est-à-dire que, en toute hypothèse, je n'oppose jamais les uns aux autres. Enfin, en tout cas, moi, je n'oppose pas les uns aux autres. Je ne dis pas « small is beautiful », donc systématiquement, il faut aller vers la petite commune rurale et que ce soit là que ça se passe. Bon, bien évidemment, c'est un choix qui est un choix national en l'espèce qui est fait. Je rappelle que les choix en matière de finances sont des choix nationaux exactement de la même manière. Alors qu'il y ait derrière, effectivement, des besoins qui soient identifiés, qui soient très différents et qui fassent qu'à la fin, parce qu'en fait ils sont très différents, monsieur le président sait ça par cœur, mais au comité des finances locales, j'allais dire, il y a toutes les tendances des collectivités, voilà, toutes, bon, et avec des arguments très, très puissants, n'est-ce pas, et tout le monde est très savant et très averti, et donc je dis ça parce que le comité des finances locales dans la gestion des finances publiques joue quand même un grand rôle. Bon. Donc, si vous voulez, je crois véritablement que, un, les finances de ce pays sont ce qu'elles sont, que nous contribuons tous au rétablissement des comptes publics. Voilà, nous y contribuons plus, mais une fois qu'on s'est dit ça, on l'accepte et on le fait. Enfin, je veux dire, on le fait tous ensemble. Alors après, il y a une question de répartition. Il y a des questions de dosage, tout ça doit être débattu, tout ça doit être discuté. Il y a des questions internes dans l'enveloppe réservée aux collectivités territoriales, de ventilation interne sur laquelle chacun peut avoir son idée, son appréciation, son approche. Le système on dit toujours la DGF, mais ce n'est pas la DGF. La DGF, c'est un système empilé de strates, si vous voulez, où on vise des typologies de collectivités ou de type de financement au soutien de telle ou telle mission qui font que, effectivement, la lisibilité, quand on regarde l'ensemble comme ça de loin, est quand même assez compliquée. Est quand même assez compliquée. Bon, j'ai travaillé en son temps à la direction générale des collectivités locales. Il me semble bien qu'il y a quelques mois, le directeur général me disait que, voilà, il fallait quand même que l'ensemble des éléments soient paramétrés dans l'ordinateur pour savoir exactement ce qui allait en sortir. Et c'est pour ça qu'a été évoqué, je crois, tout à l'heure, il faudrait le regarder de manière extrêmement précise, mais une relation de 1 à 2 dans des attributions de DGF qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc on a un système qui est compliqué, il est compliqué parce que nous l'avons voulu compliqué, enfin, il faut arrêter de se cacher derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des strates de collectivités, j'y reviens là-dessus, et si vous voulez, des influences relatives qui interviennent, qui font que de plus en plus, c'est compliqué, chacun veut un bout, un élément, finalement une péréquation dans un sens, une autre dans l'autre. Le président l'a rappelé tout à l'heure, quand on le fait sur les départements, finalement à la fin, ça annule l'effet péréquateur que l'on voulait dès le départ. On a, je le rappelle, de la péréquation verticale et de la péréquation horizontale. Enfin bon, on pourra discuter de ces questions-là, mais c'est vrai que ça entraîne, a priori, une lisibilité un peu compliquée de l'édifice. C'est pour ça que je soutiens, moi, que la solidarité entre nous tous est un élément qui, finalement, va nous permettre, tous ensemble, de sortir par le haut, je pense, sur nos territoires, de l'ensemble des services que l'on propose à nos concitoyens. Bon, il y a des instruments pour cela. Je considère que les EPCI, les communautés de communes ou les communautés d'agglos sont au premier rang de ces instruments, puisque tout à l'heure, il a été esquissé que les communautés étaient peut-être un peu loin, etc. Mais écoutez, enfin, les communautés de communes ou les communautés d'agglos, c'est nous. Hein. Alors après que vous me disiez, ah oui, mais c'est Pierre qui décide et c'est plus Paul, bon, très bien. Enfin, oui, j'allais dire, et alors ? Bon, alors, il y a des questions après de démocratie directe. Voilà, donc en clair, il y a des questions d'élections directes qui se poseront le moment venu sur les établissements publics de coopération intercommunale. Voilà, on le sait. Alors tout le monde est effrayé par ça parce que se dit, si c'est ça, que deviennent les communes, en fait ? Que deviennent les maires ? Que deviennent les conseils municipaux ? Mais comme le débat a été esquissé sans aller jusque-là tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a évoqué, autant s'en parler. Autant se le dire. Bon. Alors, est-ce que c'est l'ultima ratio de l'organisation territoriale de notre pays ? Je n'en sais rien. On est toujours avec nos 36 000 communes depuis longtemps, avec nos intercommunalités maintenant, avec nos 15 000 syndicats, avec nos... Enfin, voilà. Enfin, on est français, quoi. Voilà. On aime ça. Enfin, on aime ça, puisque c'est comme ça. C'est qu'on aime ça. Bon. Simplement, on voit bien que ce système-là, il a... il entraîne des contraintes, et il entraîne des contraintes, notamment dans un contexte financier global qui est difficile pour tout le monde. Forcément, ces contraintes-là rejaillissent sur, finalement, l'ensemble des composantes que l'on évoque ici, et ici, sur nos communes. Bon, sur ces finances, oui, la DGF a baissé, c'est vrai, c'est la participation des collectivités locales au rétablissement des comptes publics. Donc après, chacun peut débattre et discuter de savoir si ça a été fait selon le meilleur équilibre possible ou pas, ça, bien évidemment. Moi, je constate que si sur le plan du fonctionnement, donc ça a baissé, sur le plan de l'investissement, il y a un meilleur accompagnement quand même, je trouve, de la part de l'État, de la part de nous tous, mais de la part de l'État pour le coup, puisque quand on additionne la DETR et le fonds de soutien à l'investissement local, en 3 ans, on a doublé. Et je ne parle pas du FNAT, parce que j'essaye de faire en sorte que le Fonds national d'aménagement du territoire vienne aussi coupler les aides que l'on peut vous apporter. C'est-à-dire que je veux que l'on ait, de la part de l'État, un regard complet sur l'ensemble des dotations qui peuvent soutenir, quand bien évidemment ça répond à l'épure de ce qui est réclamé dans la dotation et pour qui cette dotation est faite, mais je souhaite que l'on regarde cela et que l'on ait cette approche consolidée de l'appui financier de la part de l'État. Mais c'est quand même important. Alors, il y a une commission de la DETR. Moi, je suis assez partisan de bouger les lignes. Donc, cette commission de la DETR, vous savez que c'est elle qui définit les catégories, finalement, d'action ou de travaux ou de divers équipements qui peuvent être financés. Et à quelle hauteur ? Il y a une fourchette qui est définie. Voilà. Bon, donc il y a un débat à avoir, je pense, au sein de cette commission sur le fait de savoir si on répartit de manière unique et à même taux l'ensemble des crédits dont on dispose, ou si on peut, de manière sélective, sur des items qui sont à définir, alors la ruralité, ça peut en être un, peuvent entraîner, si vous voulez, une augmentation de participation. Dans mon département précédent, j'avais par exemple, on s'occupait bien évidemment des communes rurales, mais on s'occupait aussi des alors évidemment, on était les grandes communes du département étaient inférieures au seuil d'exclusion de la DETR, donc bénéficiaient de la DETR. Et donc, comme l'augmentation de l'enveloppe avait augmenté, j'ai financé aussi de manière importante des grands projets. Parce que les charges de centralité que l'on a esquissées quelque part sont des éléments extrêmement importants. Et donc, donc on évoque la ruralité, moi j'évoque aussi les communes qui sont les communes comme ici, monsieur le maire, où on a des charges de centralité, où les équipements culturels, les équipements sportifs, etc., sont quand même plutôt là. En tout cas, c'est assez intelligent qu'ils soient là. Et bien évidemment, comme c'est au bénéfice de tout le monde, il faut que nous trouvions les voies et moyens tous ensemble de faire en sorte d'accepter le financement un peu particulier de ce type d'équipement, de telle sorte que ça puisse en retour exister et bénéficier à tout le monde. Bon, mais c'est à débattre au sein de la commission. Je vous effraie, président. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments, si vous voulez, je trouve, où l'État a fait ce qu'il avait à faire en matière d'investissement, et j'espère que ça pourra progresser encore. Bon, il y a tout ce que l'on fait ensemble aussi avec le conseil départemental. Monsieur le Président, vous avez rappelé le schéma départemental d'accessibilité des services au public et le fait qu'aujourd'hui, il est bâti progressivement avec l'ensemble des acteurs et qu'il va être signé dans, j'espère, quelques temps d'ici la fin de l'année. En tout cas, je voulais remercier vous, monsieur le président du conseil départemental, les animateurs, je vois Jean-Yves Fiaro qui travaille beaucoup également, mais aussi tous les services et vous tous qui y avez participé, qui avez apporté votre pierre, puisque bien évidemment, c'est un outil qui est notre outil commun et qui est un élément, pas l'élément, mais un élément de la réponse que nos concitoyens attendent en matière de services attendus, y compris dans les communes rurales. Donc il n'y a pas une réponse. Il y a un ensemble de réponses. Ça en fait partie. La question des investissements que j'évoquais tout à l'heure, ça en fait partie. La question, on parlait de l'intercommunalité. Moi, j'aime bien dire que l'intercommunalité, c'est l'addition de l'intelligence et de l'engagement et des compétences de chacune des communes. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Il ne faut pas le concevoir comme étant un élément où on plaque une organisation sur un système qui le subirait. Mais nous sommes tous des grandes filles et des grands garçons. Donc, il nous appartient de faire en sorte que ce soit effectivement et que nous ayons tous et toutes voix au chapitre et que nous construisions ce dispositif de l'intercommunalité. Je crois que c'est comme ça, en tout cas, qu'il faut le penser et qu'il faut le concevoir. Voilà. Je vous embête un peu en vous disant cela, mais parce que ce n'était pas tout à fait la tonalité que j'entendais tout à l'heure. Mais vraiment, je crois que le fait de travailler tous en commun, d'essayer effectivement d'additionner tout ce que l'on peut apporter et non pas de les opposer, de travailler en cohérence, c'est vraiment ça, je crois, sur nos territoires, l'État, le département, la région, les collectivités territoriales, les EPCI, fiscalité propre ou pas. Je crois que c'est comme ça qu'on parviendra à améliorer la situation du milieu rural à partir du moment où on est clair sur l'état des lieux et les objectifs que l'on veut poursuivre. Et derrière, il nous appartient de mettre en œuvre toutes nos organisations au soutien de ces objectifs pour avoir les résultats les plus rapides possibles. Voilà, je voulais vous remercier, vous dire que nous étions à votre disposition pour un certain nombre de questions, puisque les chefs de service de l'État sont là. Si ce n'est plus l'heure des questions, ce sera des questions au déjeuner, si vous le souhaitez. Mais enfin, les chefs de service sont là, donc j'ai entendu des questions tout à l'heure sur la GEMAPI, il y avait aussi des questions sur l'urbanisme, je crois. Donc le directeur départemental des territoires est là, le directeur départemental des finances publiques est là. Donc mesdames et messieurs, si jamais il vous manque 2-3 euros, tentez votre chance. Et puis les sous-préfets que vous connaissez bien sont et continueront d'être à vos côtés. Merci beaucoup.